Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous sommes avec la romancière Safia Azdine pour son nouveau roman « Mon père en doute encore ». Et puis dans les indispensables, un dernier livre en compétition pour le prix littéraire Europe 1 GMF et un hommage à Guy Bedos qui nous a quittés hier. En fin d'émission, le meilleur des portraits inattendus d'Hélène Manarino. Aujourd'hui, Macha Meryl. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, et je suis ravie de vous le dire pour la 200e fois.
Voilà. C'est vrai. Bonjour Hélène. On commence ce journal de la culture évidemment par cette triste nouvelle, la disparition de Guy Bedos.
La vie est une comédie italienne. Tu ris, tu pleures, tu pleures, tu ris, tu vis, tu meurs, tu ris. Comédiante, comédiante, c'est ça, la vie. Il bidone, Federico Fellini, il pigione, Mario Monicelli, il fanfarone, Dino Risi. C'est ça.
Un extrait de son spectacle au Cirque d'Hiver en 1986. Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux, comme je suis fière de l'avoir eu pour père. Les mots de Nicolas Bedos hier après-midi sur ses réseaux sociaux. Jean-Paul Belmondo a déclaré « La mort de Guy me brise le cœur. Une fois de plus qu'un ami, je perds un frère. » Muriel Robin, qui a joué sur scène avec lui, a déclaré « Guy était un sale gamin qui aimait aller là où ça pique. C'était un homme courageux et d'engagement jusqu'à l'acte sur le terrain. Il ne se contentait pas de penser dans son salon. » Alors les hommages, Philippe, ne cesse de se multiplier sur les réseaux sociaux de la part du monde de la culture, mais aussi de la part de la classe politique. Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans, humoriste, acteur, scénariste, écrivain, qui n'hésitait pas aussi à partager ses prises de position politique, une figure de la gauche intellectuelle. Son premier seul en scène en 1968 à Bobino, puis le cinéma, Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis. Il a travaillé pour Yves Robert, Patrice Chéreau, Claude Berry. L'humour ne le lâche jamais. Il obtient avec Muriel Robin la victoire 93 de l'humoriste, une consécration, des sketchs cultes, des amitiés fidèles, comme celle avec Jean-Loup Dabadie, disparu il y a quelques jours. Défendant de nombreuses causes, il se battait sans relâche contre le racisme, il aidait les sans-papiers, militait pour le droit au logement, défendait les employés d'ArcelorMittal. Guy Bedos s'était remarqué donc pour tous ses engagements. En 2014, il confiait à Alessandra Sublet, « La mort ne me fait pas peur si elle est administrée par quelqu'un. J'ai déjà choisi mon médecin assassin qui normalement me fera une piqûre, je n'ai pas envie d'être vieux, très vieux. » Alors il parlait régulièrement de la mort, de sa mort qu'il voulait choisir. Il se consolait en se disant « Je suis sexagénaire et dans ce mot il y a le sexe. » Guy Bedos qui avait déclaré « L'humour ne s'apprend pas, c'est comme le jazz, une cadence intérieure ou là où on l'a pas. » Lui, c'était une évidence, une cadence que nous avons tous suivie et que Louise Bernard mettra à l'honneur dans quelques instants.
Mettra à l'honneur, il n'y a pas de thé.
À l'honneur,
c'est mal
pardon.
À propos, Louise Bernard qui sera avec nous. Donc hommage en fin d'émission. Guy Bedos, qui aimait tant le spectacle vivant, il aurait été heureux d'apprendre les mesures de déconfinement annoncées hier par le Premier ministre Édouard Philippe.
Ça y est, elles sont là et elles sont officielles. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront rouvrir dès mardi prochain, pas avant le 22 juin en zone orange, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. Ouverture des musées à partir du 2 juin sur tout le territoire. Pour les cinémas, toutes les salles rouvriront le 22 juin, comme promis, donc une ouverture nationale pour organiser la programmation des salles. Des annonces très positives avec des règles sanitaires strictes, port du masque obligatoire, règles de distanciation physique à respecter avec une organisation spécifique des places assises et une gestion des flux. Le nombre de places vendues dans les salles sera limité. Les grands événements culturels en public resteront suspendus jusqu'au 21 juin au moins et dans toute la France. La fête de la musique aura bien lieu cette année sous certaines conditions.
Et donc le Festival de Cannes sera bien présent cette année, Hélène.
Et oui Philippe, alors différemment évidemment, hein, comme convenu, mercredi prochain Thierry Frémaux, le délégué général du festival, annoncera sur Canal+ à 18h une liste de 50 à 60 films qui bénéficieront, vous savez, de ce label Cannes et qui pourront donc être présents dans d'autres festivals pour une exposition maximale. Ce label Sélection Officielle 2020 a été spécialement créé après l'annulation de l'édition de cette année. Thierry Frémaux affirme qu'il a reçu de nombreuses invitations de festivals à travers le monde pour montrer les films sélectionnés dans un élan avant tout de solidarité. Aucun nom de film n'a été pour le moment communiqué. Il faut donc attendre mercredi, 18h sur Canal+, en clair, ainsi que sur le site du Festival de Cannes.
Et puis on termine ce journal par les nouveaux mots dans le dictionnaire.
Que vous allez souvent employer, peut-être, moi en tout cas, il y en a un, c'est certain, celui-ci. Alors c'est pas Crazy, c'est pas Love, mais c'est Beyoncé, et oui. Lady Gaga et Beyoncé seront, oui, c'est pas mal, hein, seront donc dans les pages de l'édition 2021 du Petit Robert qui sortira le 4 juin prochain. Il y aura également la militante Greta Thunberg, le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson. Alors dans les noms communs, Philippe, il y aura pansexuel, polyamour et dans le domaine de la technologie, les mots tech ou cloud qui font leur apparition et puis les mots story, sexto, mytho. Mmh. Et puis un mot que l'on utilise beaucoup en ce moment, malheureusement Covid, et qu'on aimerait ne plus trop utiliser d'ailleurs.
Dans les six mots que vous avez mis, il y en a trois autour du sexe quand même, Hélène. Je dis ça, je dis rien.
C'est pas de sa faute.
C'est pas moi qui l'ai choisi. Hein.
Et Cyril Lacarrière attend dans les noms propres. Cyril Lacarrière attend Tom Leb. Merci beaucoup Hélène Manarino. Je vous dis à lundi, bon
week-end. Ça ne devrait pas tarder, Tom Leb. J'en suis sûr.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est Safia Azzedine qui nous rejoint dans Culture Média, Philippe.
Bonjour Safia Azzedine.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancière, vous êtes cinéaste également, vous avez réalisé un film tiré de votre roman Mon père est femme de ménage avec François Cluzet. Vous étiez fait remarquer dès votre premier roman Confidence à Allah. J'en parle car vous l'avez réécrit et republié récemment, ce qui est assez rare pour être signalé. Mais là, cette semaine, vous publiez un roman dans lequel il est à nouveau question de votre père. Très beau titre, Mon père en doute encore, c'est chez Stock. Il doute de quoi votre père? Pardon de cette question basique, mais c'est celle qu'on se pose directement.
Bah oui, j'imagine, mais je donne la réponse à la dernière page, donc je ne vais pas vous répondre.
Vous
mais,
savez
mais
quoi
il doute de beaucoup de choses. Mais...
Je vais vous dire pourquoi je souris. Parce que cette question-là, je l'avais prévue pour la fin, et j'allais dire, vous donnez la clé du roman à la dernière page, est-ce que j'ai le droit ou non de lire cette dernière page? Donc je ne la lis pas. Dans la deuxième page, il y a une sorte de clé. Peut-être pas la clé, mais un peu la serrure. Vous écrivez au sujet de votre papa. Il aurait voulu être un patriarche, il n'a été qu'un bon père. Au fond de lui sommeille un petit dictateur qu'il aurait aimé nourrir pour devenir le genre d'homme que l'on craint déjà derrière la porte. Cette assurance que le pouvoir confère et qu'annonce un pas souverain avant d'entrer dans une pièce. De ceux qu'on redoute, même quand il sourit, il aurait voulu être plus tout et moins quelque chose, plus riche et moins pauvre en fait. J'adore ce petit passage qui écrit votre père. Vous dites qu'il n'a pas eu de père, votre père. Qu'est-ce que ça change, Safia Azzedine?
En tout cas, dans une société, il est né dans les années 40, on n'a pas exactement sa date de naissance, mais il est né dans les années 40 au Maroc, dans un petit village collé à la frontière algérienne, dans une famille pauvre, sous protectorat français. Donc évidemment, dans une société aussi patriarcale que vous pouvez l'imaginer, ne pas avoir de père, ben, vous êtes un petit peu amputé socialement, parce que dans les grandes fêtes de famille, dans les mariages, etc., les hommes et les femmes étaient séparés, et lui, il traînait avec les femmes. Et évidemment, lui, ça a dû être très douloureux pour lui, parce qu'il y avait le côté très important qui vous est passé pour un VIP tout de suite. Vous étiez le fils d'eux, et lui, il était que le fils de sa mère. Et ça, c'est une amputation qu'il a un petit peu trimballé avec lui comme un boulet toute sa vie. Et moi, d'un point de vue très égoïste, je pense que ça a été sa chance d'être élevé par des femmes dans une société très patriarcale, parce qu'il a vu dès l'enfance ce que les femmes subissent. Mais je fais attention en disant subissent, c'était des femmes très heureuses. Il a eu beaucoup d'amour autour de lui. On n'est pas dans cette oppression des femmes musulmanes dont on entend parler absolument partout. Ouais. Mais qu'on le veuille ou non, on était dans une société patriarcale et il a vu que les femmes passaient en deuxième, et c'est ce qu'il a voulu faire avec ma sœur et moi surtout, même s'il l'a fait avec mes frères. Il a fait en sorte que nous passions en premier.
Ouais, vous dites,
ça a été la base de son éducation.
Vous écrivez qu'il vous disait ou qu'il vous dit à propos du pèlerinage de la Mecque, « Jamais je ne t'enverrai dans un pays dans lequel une femme n'a le droit d'entrer qu'accompagnée d'un homme, comme si vous étiez, vous les femmes, d'abord coupables. »
Oui, après c'est un homme de spectacle aussi, donc il aimait dire ça devant du monde. D'une manière générale, il trouvait que ça n'avait aucun intérêt, mais il respectait les gens qui le faisaient. Hein. L'idée n'est pas juste de faire des polémiques. Mais déjà, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il estimait que jamais il retirait de l'argent de notre éducation pour aller faire un voyage qu'il trouvait plutôt vain, parce qu'il pense que la foi est une affaire privée, et donc on peut faire son pèlerinage de mille manières. Mmh. Et que, oui, bien sûr, le fait que la Mecque soit dans un pays comme l'Arabie Saoudite lui posait problème, et bien sûr, il n'allait pas se soumettre à ça.
Il avait une phrase même très drôle, si je me souviens bien, je l'ai lu hier, mais je ne l'ai pas notée, mais elle me revient en tête. Les cinq piliers de l'islam, ça tient déjà très très bien sur quatre piliers, je trouvais ça très joli. Il raconte son enfance dans son village de Figouig, c'est au Maroc, vous l'avez dit. Mmh. On est dans les années 40, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, et vous lui dites comment ça se passait, et là il comprend même pas votre question.
Oui, et j'adore ça chez lui. C'est-à-dire que quand je lui dis comment ça se passe avec les Juifs, sa réponse est ben, comment voulais-tu que ça se passe? Eh ben, on était copains. Et j'aime cette simplification de tout. Bizarrement, mon métier, c'est d'écrire, et donc j'ai beaucoup de mots, et puis des mots pompeux parfois, et pas forcément nécessaires, et lui n'a pas ça. C'est peut-être même sa chance d'avoir été à l'école de manière sporadique. Comment voulais-tu que ça se passe? Ça se passait bien, le reste, c'est de la politique, mais mes copains, voilà, quand je pense à mes copains juifs, je me souviens des conneries qu'on a fait ensemble, et c'est ce que je dis dans le livre. Je suis devenue plus complexe avec toutes ces polémiques autour de nous, avec tous ces débats totalement artificiels qui ne servent à rien. Et j'aime qu'il me rappelle que ma question est complètement conne.
Juste un mot, parce que moi je vais prendre la défense de votre papa, que toutefois vous n'accusez pas. Quand vous dites qu'il n'est pas allé à l'école, qu'il n'écrit pas très bien, il y a un passage où il vous écrit une lettre ou un mail, mais c'est magnifique. La tige fragile, vous écrit-il.
Ah non, j'ai jamais dit qu'il n'écrivait pas bien, c'est un autodidacte. Ah non, attendez, j'ai écrit un livre sur
lui. Attendez, laissez-moi citer votre papa. Laissez-moi citer votre papa, je vais faire un petit hommage à votre papa avant qu'on marque une pause.
Pardon.
La tige fragile que je suis depuis ma naissance à moitié parfaite t'ordonne de te méfier des applaudissements qui lissent la peau. Toi, ma lumière éternelle, tu sais faire la différence entre le crachat et la pluie, et c'est ton meilleur rempart contre les calomnies gratuites qui s'éteindront avec le temps. Bavard parmi les bavards, c'est magnifique. Vous restez avec nous, Safia Sdine. On a encore plein de questions, et dans ce livre, vous parlez également de vous, donc on va parler de vous.
Oui, Culture Média continue avec la romancière Safia Sdine, qui est notre invitée. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Safia Sdine qui est l'invitée de Culture Média pour nous parler ce matin de son nouveau roman Mon père en doute encore aux éditions Stock, Philippe.
Ça démarre très très fort en termes de chapitres. Les choses auraient été tellement plus simples, écrivez-vous, si mon père avait été un père arabe arriéré, comme on nous en montre tant à la télévision dans les années 90. Un con qui change de chaîne au moindre bisou, qui interdit à ses filles de parler aux garçons et à ses garçons de pleurer comme des filles. Pourquoi ça aurait été plus simple ?
Parce que enfin c'était une manière pour moi de dire voilà pourquoi j'écris ce livre, c'est parce qu'il est l'opposé de ça. Ouais. Et que je me dis vraiment que venant d'où il vient, et je fais très attention de ne pas dire qu'il vient de rien, il vient juste d'un milieu très simple, dans un village sous protectorat français, donc un endroit quand même où vous êtes nié à la naissance, où vous êtes remis en question parce que il y a une race supérieure qui a décidé de venir vous civiliser. Et on part de là, et donc moi, ce que j'aime le plus chez lui, c'est l'éducation qu'il m'a donnée, parce que finalement, on s'en sort pas mal du tout. Et puis, c'est un père qui m'a fait gagner du temps. Il nous a donné les moyens de choisir notre vie, de ne pas s'embarrasser avec des questions identitaires, culturelles, religieuses. Il a gardé ces questions pour lui, parce qu'elles lui ont été imposées par sa naissance et puis par la colonisation de son pays, évidemment. Mais nous, il nous a pas empêchés d'avancer avec elles. Et donc, voilà, il n'avait pas d'argent, il n'allait pas vraiment à l'école, sa mère était analphabète, il n'avait pas les codes, pas les bonnes manières. Et tout ça, moi j'aurais dû le trimballer comme un fardeau pour essayer de trouver ma place. Et ben, dès le début, il m'a dit et répété que ma place était absolument partout et que tout le reste, c'était que de la branlette. Enfin, excusez-moi, je suis en pyjama dans mon salon et donc j'ai l'impression de parler à des copains, mais c'est vraiment ça. Il m'a dit que tout ça, c'est de la théorie. Donc lui-même a fait un travail de résilience extraordinaire pour stopper l'hémorragie. Il s'est battu contre ses démons, contre ses complexes, mais surtout pour ne pas nous les refiler. Et donc, en fait, c'est ça l'amour et c'est ça. Et c'est ça qui fait que j'ai eu envie d'écrire un livre sur lui.
Dans ce livre, Safia Sdine, vous parlez de votre père, mais vous parlez de vous également. Il y a une séquence très drôle. Ça se passe en 85 ou 86, ou même vous ne savez pas trop. Vous aimez bien regarder Paris Match avec la famille de Monaco en couverture. Votre maman est abonnée. Ou alors il y a les acteurs de Dynasty, ouais, de Dallas, les filles avec des très très belles robes. Et un jour, il y a une chanteuse en couverture et vous avez pris peur. C'était qui et pourquoi vous avez pris peur?
Mais j'ai pris peur parce qu'en fait je suis née au Maroc, à Agadir. Et puis.
Non, mais dites qui était, la personne.
C'était Jeanne Masse. C'était Jeanne Masse en couverture. Et j'ai pris peur. Et pourtant, j'allais en France, en Normandie, voir ma famille une fois par an. Et de me dire que j'allais aller habiter dans un pays où les gens pouvaient se coiffer comme ça, vraiment, ça m'a fait peur.
Attendez, vous dites,
et
vous
donc,
écrivez.
Comme il était
elle
question
était maquillée.
Qu'on quitte le Maroc.
Attendez, il faut que je raconte, parce que sinon, on comprend pas pourquoi vous avez peur. Elle était maquillée comme un vampire et rasée de chaque côté de la tête avec des mèches rouges sur le dessus. Je dis, je veux jamais aller voir des gens habillés comme ça.
Mais parce que moi, je suis dans un Maroc que je fantasme même encore aujourd'hui. Je suis dans un Maroc heureux. Je ne m'occupe pas de politique. Je suis heureuse. Il fait beau. On joue en bas. Les voisins sont sympas. Comme dit Gad Elmaleh, l'immeuble bouge parce qu'on se connaît tous et on se parle et on se touche. Il y a du lien social au Maroc, vous voyez. Et donc, d'un coup, on me dit, on va quitter le Maroc, mon pays adoré, et puis on va aller dans ton autre pays. Et moi, évidemment, j'imagine qu'il y a que des Jeanne-Mas en France. Évidemment, vous vous rendez bien. Enfin, on est resté depuis. Et je suis très heureuse aussi ici, mais enfin voilà, c'est des trucs de petites filles qui restent, quoi.
Voilà, et c'est très amusant. Il y a aussi, parce que vous parliez de branlette, il y a une séquence assez extraordinaire, parce que vous êtes dans le dictionnaire, vous êtes à l'école en Suisse, je raconte pas tout, et vous cherchez un mot en particulier, et aucune définition ne vous convient. Et là, je vous laisse vous débrouiller avec cette question.
Bon, écoutez, en gros, il faut bien comprendre que même en France, on vit presque en autarcie avec mes parents. Ce sont des parents très très aimants, mais dehors c'est un peu le danger, dedans tout va bien. Donc mes chéris, surtout restez avec nous à l'intérieur. Et puis on arrive quand même à l'adolescence, et là je vois un père un peu plus désemparé. Il y a les pères copains, ça devient à la mode. Lui c'est un père qui sanctionne. Plus que c'est pas mon copain, vous voyez. Et donc là, d'un coup, les filles parlent et j'essaye d'être une fille à la mode, ce que je ne suis absolument pas à l'époque. Et elles sortent une phrase, et vraiment, je suis désemparée avec ce mot. Il y a une fille qui dit, oh là là, il aurait mieux fait de te faire une pipe. Et tout le monde éclate de rire. Alors j'éclate de rire aussi, mais à l'époque, je sais à peine comment on fait les bébés. Vous voyez, je suis vraiment la petite fille de papa et maman. Et donc je cours au CDI et puis je cherche dans le dictionnaire le mot pipe. Et puis évidemment, il n'y a aucune connotation sexuelle à ce mot. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'elles ont voulu dire? Mais il faut que je continue à être cool parce que j'ai quand même 13 ou 14 ans et que tout le monde doit savoir ce que c'est. Et donc je vais demander à une fille pas populaire pour pas qu'elle me balance aux autres. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et elle m'explique. Et là, j'ai un tel choc. Je peux tellement pas imaginer que ce soit possible, que je me réfugie chez mon papa. Je crois que j'ai encore perdu 2-3 ans où je suis restée chez eux, où j'ai voulu être leur petite fille. Je me suis dit, dehors, c'est vraiment l'enfer. Si vraiment on fait des choses comme ça dehors, alors je veux rester avec papa et maman. Voilà. Mais bon, ça paraît con comme ça, sorti du contexte, mais dans le livre, c'est assez drôle. Et puis, depuis, vous savez, j'ai appris plein de choses.
J'en doutais pas une seule seconde.
Et l'enfer n'est pas forcément dehors. Voilà.
Voilà. Et c'est assez drôle et c'est extrêmement argumenté. Et surtout, ne spoilez pas et ne tournez pas à la dernière page pour comprendre le sens de ce roman. Merci beaucoup, Safia Sdine. Je rappelle, Mon père en doute
Merci
encore. Ça sort cette semaine chez Stock.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour avec un nouveau livre présenté par Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez du 5e roman sélectionné pour le prix littéraire Europe 1 GMF.
Ça s'appelle La Belle Hélène, signé Pascal Rose. Prix Goncourt, Pascal Rose, quand même, pour Le Chasseur Zéro, c'était en 96.
Et ça avait fait polémique à l'époque.
Exactement. Dans ce nouveau roman, elle raconte l'histoire d'Hélène. Hélène Bourguignon, elle a une 60aine d'années et elle donne ponctuellement des cours de littérature à Sciences Po. Elle leur parle en particulier de nouvelles et d'ailleurs, les chapitres font référence souvent à une nouvelle ou portent le nom d'un auteur, Richard Brautigan, Tchekhov ou Robert Musil.
Et c'est un cours de lettres en fait alors, pendant tout ce livre?
Alors non, on la suit à la fois elle dans sa vie de tous les jours et dans ses souvenirs. Elle a perdu les deux hommes de sa vie et elle vit seule, et puis on la suit aussi pendant ses cours avec son petit groupe d'étudiants, toujours les mêmes. Elle apprend à les connaître au fur et à mesure, et nous aussi. Ils deviennent tous des personnages de son roman. Ils lisent et interprètent les nouvelles avec nous. Alors, soit on connaît déjà la nouvelle, le texte, et on le redécouvre par ce prisme, soit on ne le connaît pas du tout et on le découvre. Pascal Rose a le talent de nous faire découvrir la nouvelle, pas seulement en la résumant, mais en nous la faisant sentir, en extrayant son essence.
Et ça a un rapport avec sa vie.
Oui, les nouvelles, la littérature entre en résonance avec sa vie à elle. Elle est aussi lectrice de manuscrits pour une maison d'édition. Elle a publié un roman à succès, elle n'a pas que ses cours, même si elle adore ça. Et donc elle vit sa vie, mais baignée en permanence de littérature et des grands textes. Elle s'accroche par exemple aux aphorismes, aux citations de la philosophe Simone Veil ou de Marc Aurèle, et elle les partage avec nous. La seule chose que tu possèdes, c'est le présent. Par exemple, ce genre de petites pensées qui donnent à réfléchir, qui font méditer, et donc on se surprend pendant la lecture à lâcher, vous savez, quelques secondes le livre en regardant l'air comme ça, et puis on se dit ah oui, d'accord, on médite un petit peu. Il y a aussi distillé de magnifiques phrases tirées des nouvelles, comme cette citation de Robert Musil: le vent soufflait sur les étheules aussi doucement que s'il avait eu une soupe d'enfant à refroidir. C'est beau ou pas?
C'est beau, mais c'est quoi les étheules?
Les étoules, c'est, je crois que c'est dans les champs, vous savez, les... ce qui reste après le blé coupé, il me semble. Mais on voit bien l'image. C'est à l'image d'ailleurs de ce livre, de ce roman, c'est doux, c'est plein de bonbons à l'intérieur.
La belle Hélène, donc, de Pascal Rose, un livre à friandises. Et justement, parce que je disais que ça a fait scandale parce qu'à l'époque, toute la profession souhaitait que ce soit Michel Houellebecq qui ait le Goncourt. Et ce fut Pascal Rose. Les cinq sélectionnés pour le prix littéraire GMF européen, vous les récapitulez?
Alors donc, Hugo Boris pour Le Courage des Autres, chez Grasset. L'histoire, vous savez, du champion de karaté terrifié dans les transports en commun quand il s'agit de se battre pour de vrai et qui répertorie tout ce qu'il voit. Superbe. Le Théâtre des Nuits de Karl Aderholt de chez Stock. C'est donc la comédienne qui part jouer sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Très beau. Claire Fercac, que vous adorez, Philippe. Ce qui est nommé reste en vie chez Vertical. Récit poignant sur la fin de vie. Monsieur le maire de Pascal Grégoire au Cherche Midi. Roman policier et social. La politique, la vraie. Un maire condamné pour meurtre qui se souvient de tout son mandat. Et puis donc, Pascal Rose, La Belle Hélène, c'est chez Stock.
Et le lauréat du prix littéraire européen GMF sera annoncé le 24 juin. Vous y serez évidemment. Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Bon week-end.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est la suite de nos indispensables, Philippe, avec Louise Bernard.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Ce matin, comment faire autrement? Votre indispensable humour, c'est un grand du métier qui nous a quitté, Guy Bedos, en parallèle de sa carrière au théâtre et au cinéma. Il a enchaîné les spectacles d'humour pendant près de 40 ans.
Ouais, et il avait un rituel avant la scène, une lampée de whisky dans le gosier, ce sont ses mots, hein, et des photos accrochées sur le miroir de sa loge, d'être cher, de ses chats et de la Méditerranée qu'il voyait depuis sa maison en Corse, l'île qu'il aimait tant et où il sera d'ailleurs enterré. Ensuite, il arrivait sur scène en costume noir, propre sur lui pour mieux étriller tout le monde et toujours avec ce sourire.
Le jour où je regarde ses jambes, je lui dis « T'as tes bas qui plissent ». Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas.
Et dire que sa carrière d'humoriste a commencé grâce à Jacques Prévert. Il joue en fait son tout premier sketch devant lui dans le cabaret qui appartenait aux frères du poète. Jacques Prévert, l'idole de Bedos à l'époque, l'encourage à écrire et c'est le début d'une carrière de plusieurs décennies.
Et c'est quoi son premier succès, celui qui l'a fait connaître?
Alors c'est un succès partagé que vous connaissez forcément. Il commence sa carrière d'humoriste en duo avec Sophie Daumier, sa compagne de l'époque. Le sketch est de 1973 et c'est culte, la drague. Ils dansent ensemble un slow, collé serré, sans se parler, ce sont leurs pensées qu'on entend. Alors lui, il est persuadé qu'il va conclure, et elle, elle n'en peut plus de ce pot de colle.
Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot.
Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te le planterais là?
Et la drague qu'on entendra en entier dans quelques instants.
Exactement, et le duo Sophie Daumier-Bedos choquera aussi plus tard avec un autre sketch jugé raciste. Il joue un couple de Français partis en vacances.
Marrakech, ça nous a déçus.
Non, ça nous a pas plu.
C'est plein d'Arabes.
Caricature mal comprise, censurée d'ailleurs, qui pourtant dénonçait justement le racisme, comme Bedos l'a ensuite fait toute sa vie. Le duo dure tout de même 10 ans jusqu'à leur séparation à la ville et donc à la scène.
Et donc c'est là, après la séparation, que Guy Bedos commence sa carrière en solo.
Voilà, avec sa définition du rire, faire du drôle avec du triste. Donc il désingue les racistes, les fanatiques, les misogynes. Et sa cible préférée, hein, les politiques, notamment les présidents, qu'il prenait plus ou moins bien, hein, monsieur Giscard d'Estaing. Très vite, dès le début des années 80, il intègre des revues de presse à la fin de ses spectacles, dont le public raffole.
Sarkozy, c'est la Marielle Guachel de la politique. Il commence une phrase à gauche, il a fini à droite.
Aubry, que dire, Aubry, elle voulait Matignon ou rien, et ben ça a été rien.
Avec une petite préférence pour taper sur la famille Le Pen et sur la droite. En 2013, il traite Nadine Morano de conne. Au procès qu'il gagne, le tribunal estime qu'il est dans son registre habituel. Et lui, il ne peut pas s'empêcher de renchérir. Je n'insulte pas, j'informe. Alors même s'il se revendique de gauche, il n'est pas tendre avec elle non plus.
Et il a été récompensé pour sa carrière d'humoriste, j'avais oublié.
Oui, 2 prix, le Molière du meilleur one-man show en 90 et la victoire de l'humoriste qu'il partage avec Muriel Robin pour leur spectacle commun en 93. Et 20 ans après, en 2013, c'est sur la scène de l'Olympia qu'il adorait, qu'il fait ses adieux après 2 ans d'une dernière tournée. Il confie au public ce soir-là « Je vais avoir un mal fou à vous quitter, il n'y a que sur scène que je suis bien », avant de les faire chanter une dernière fois.
Vous m'accompagnez, vous allez chanter, tous ensemble, en hommage à moi. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère.
Au revoir Guy Bedos, si on pense à sa famille et j'embrasse ses enfants Victoria et Nicolas. Merci beaucoup Louise Bernard, bon week-end.
À bientôt. Et avant d'entendre le portrait inattendu de Macha Meri par Hélène Manarino, musique dans Culture Média, Louise nous en parlait à l'instant dans son hommage à Guy Bedos. On retrouve avec plaisir le duo Guy Bedos-Sophie Domnier avec ce titre culte, La Drague, sur Europe 1.
Qu'est-ce qu'il est collant ce type ? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle ! Il se fait des idées ou quoi ? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, je vois plus le bout.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, Geno. La nuit est à nous.
Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette. Mais alors, drôlement incommodant.
Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il n'y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là est à ma taille. Elle n'est pas terrible, mais elle est à ma taille.
Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme Mentec, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Oh.
Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Geno.
Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. Oh, et puis alors qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te le planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je veux pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein?
Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y. Vas-y, Geno. Emmène-la au ciel.
J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien.
Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque.
Aïe ! Mais il est givré, ce mec ! Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Tu parles d'un plaisir ? Moi qui ai un mal fou cicatrisé, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Puis il manque que ça finisse ce gelot parce que je suis au bord de l'esclandre.
Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout.
C'était Sophie Domier et Guy Bedos, un sketch écrit avec Jean-Loup Dabadie qu'on vient d'écouter. C'était La Drague, évidemment, sur Europe 1.
Europe 1.
La fin de cette 200e arrive, hein, 200e de Culture Média aujourd'hui. On la terminera en beauté avec le portrait inattendu de Macha Meri sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de notre cerise sur le gâteau Culture Média, le portrait inattendu d'Hélène Manarino.
De cherry on the cake, comme elle dirait
exactement.
Elle-même. Avec Macha Meryl.
Bonjour Macha Meryl.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Et oui, après une enquête, il y a des choses encore un peu secrètes. Vous êtes, Macha Meryl, la maîtresse de maison absolument parfaite que l'on rêve tous de connaître, il faut le dire.
Ça, c'est pas nouveau, ça.
Lorsque vos proches sont invités chez vous, une règle à respecter, ne rien faire et profiter. Les invités n'ont pas intérêt de bouger.
Il faut qu'ils ferment leur gueule, absolument.
Exactement, il faut qu'ils ferment leur gueule. Absolument. Vous souhaitez tout gérer, le dîner, la table, véritable passionné de l'art de vivre, cuisinière hors pair. Si quelqu'un vous aide, il faut qu'il soit un pro de l'hôtellerie ou alors même prendre son téléphone et regarder une vidéo pour mettre correctement la table. Vous savez
et
comment... Elle est dure, hein. Vous savez comment organiser les choses, les objets, comment il faut les placer. Bref, c'est votre terrain, une maison dans le sud remplie de senteurs de bonheur et d'amour. Lorsque vous y rendez, votre voiture est remplie de paniers de raisins, de légumes, de fleurs. Vous emmenez tout ça à Paris pour que votre sud continue de vous accompagner.
Je migre absolument, oui.
Ceux qui vous accompagnent aussi, ce sont vos chats. Jasmine et un autre depuis 6 mois, petite Sarre.
Oh, elle est au courant, dis donc.
Ah ben, on se demande toujours.
Voilà.
Là, c'est le chat qui lui a parlé.
Qui vous a raconté tout ça?
La maman.
Une organisation bien ficelée, et ça dans plusieurs domaines. Vos règles, vous les avez. Exemple, lors de séances photo, vous avez toujours une première remarque. Votre appareil est trop bas.
Mais sûr, c'est vrai. C'est à cause des trous de nez, on vous prend pas en contre-plongée.
Ah, je suis d'accord. Moi, je déteste voir les trous de nez.
Mais oui.
Mais surtout, Macha Meryl, il y a vos règles. Enfin, il y a plus que ça. Il y a votre code de la route. Les radars, ce n'est pas votre truc. Quand vous roulez à 139 km/h et que vous vous faites flasher, pour vous, c'est de l'abus. Les restrictions vous ennuient.
Je fais amende honorable, c'est vrai.
Bah oui. Les restrictions, surtout à Paris, ça vous ennuie parce que pour vous, la voiture, et oui, c'est la liberté avant tout. Votre spécialité, vous repérez les portes cochères sans panneau sortie de véhicule et vous vous garez et ça fonctionne.
Mais ça marche très bien. C'est un petit truc que je donne à tout le monde.
Ouais. Hein, c'est malin de le dire maintenant, parce que tout le monde va le faire.
Merde, alors je retiens.
Quand ce n'est pas la voiture, vous prenez le métro et si c'est vers 13h, vous n'êtes jamais sans votre journal Le Monde, que vous aimez déplier au milieu de tous ces téléphones portables. Passionné de politique, d'actualité, des faits de société, vous êtes presque incollable. Mais surtout, Macha Meryl, vous ne vous arrêtez donc jamais. Et d'après la légende familiale, vous avez été conçu d'ailleurs une nuit d'orage, ce qui explique votre énergie.
Vous ne le saviez pas?
Tiens, ça c'est nouveau, je ne savais pas.
Je vous avais dit que vous alliez apprendre des choses sur vous-même.
Ah,
oui, oui.
C'est un peu comme les dieux de l'Olympe, n'est-ce pas?
Exactement.
J'ai été conçu dans d'une façon un peu exceptionnelle.
Oui.
Alors, ouais, vas-y, continue.
Ah oui, non, bah, je peux y aller.
Ça y est, on se tutoie, ça y est.
Ah bah oui, mais je vais aussi, je vais y aller. Hein. T'es sûr, je continue?
Oui, oui, allez, okay. Vas-y.
Alors, sourire. Pour le moment, ça va.
Ça va, ça va, okay. Ça va. J'ai des trucs à dire après quand même. Ouais. Allez, hop.
Ce sourire, vous l'avez eu aussi, on peut le dire, grâce à cette sublime et unique histoire d'amour avec Michel Legrand, comme vous dites, votre moi bis. Michel Legrand, que vous avez retrouvé en 2014, mais que vous avez failli retrouver en 2003, lors d'un festival de musique de film, Macha Meryl, Michel Legrand devait venir. Il a annulé 2 mois avant, vous étiez dans le jury. Vous avez tellement aimé ce festival que vous avez souhaité le refaire en 2004. L'invité de cette édition, une nouvelle fois Michel Legrand, qui était bel et bien présent, mais vous avez dû annuler 5 jours avant le début du festival pour cause de tournage. Des années de films en commun, sans jamais travailler ensemble. Et puis ces retrouvailles, évidemment, âme sœur jusqu'au bout, même lors de votre voyage au Brésil, où vous portiez tous les deux des vestes identiques, pleines de couleurs dans l'aéroport, alors que tout le monde portait des couleurs foncées. Impossible de vous louper, la vie festive et joyeuse avant tout. Travailler ensemble, oui, Michel Legrand voulait adapter L'amour aveugle de Patrice Cauvin à Corps de principe de Robin Williams, mais malheureusement, il meurt. Vous décidez,
il s'est suicidé, oui.
Macha Meryl, de faire lire Entretien avec un dévoyé. Vous l'adaptez ensemble et il y a un spectacle musical qui n'est pas encore sorti, d'ailleurs.
Absolument. Oh là là, dis donc, elle est drôlement informée. Ouais. Hein.
C'est vrai ce qu'elle dit?
Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre.
Ah, c'est pas le but.
En parlant de vous?
C'est-à-dire, oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Pour moi, il y a avant et après Michel. Quand j'ai rencontré Michel Legrand, tout d'un coup, je suis devenue la personne que j'aurais voulu être. C'est-à-dire que je pense que les femmes se battent comme des diablesses pour arriver à ça. Et ça n'arrive pas à toutes les vies, parce qu'il n'y a que l'amour qui révèle ça. Quand on rencontre tout d'un coup cette liberté que donne l'amour, c'est-à-dire il avait l'impression qu'il me faisait naître. Et c'était vrai. Et d'ailleurs, ce livre que j'ai écrit, je l'ai un peu écrit à quatre mains avec lui. Et sa disparition, elle n'est pas tout à fait comme une perte. C'est qu'il me donne deux fois plus de force. C'est que maintenant, je suis lui et moi.
Hélène.
Et c'est pour ça qu'aucun projet ne vous fait peur. Vous avez fait l'un des rares films français de science-fiction, Ne jouez pas avec les Martiens, mais surtout, l'un de vos personnages a inspiré l'une des plus grandes chansons de Serge Gainsbourg.
Elisa, 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 saute-moi au cou.
Elisa, Gainsbourg s'est inspiré de votre personnage dans le film L'Horizon. Ce film l'a hanté. Il s'est dit, je veux en faire un texte. Je vais faire un portrait du personnage de Macha Merrill. Et ça a donné Elisa.
C'est pas vrai.
Absolument.
C'est
vrai.
Vous, Elisa?
Tout à fait. Oui, oui, oui.
J'ignorais totalement.
Et après, il l'a reprise tranquillement en l'extrayant du film. Et ouais. Il en a fait le tube qui est le tube.
D'accord, mais je savais pas que c'était vous.
Absolument.
Alors, Macha Merrill, vous n'avez jamais aimé faire le bilan de votre carrière, garder les coupures de presse, des interviews, des photos. Vos fans s'en chargent, ce qui peut parfois vous troublez, mais vous avez toujours été, vous l'êtes toujours, très positive. Même lorsqu'une nouvelle peut être difficile, vous puisez votre force dans le sourire, la force, la joie de vivre, conçue donc lors d'une nuit d'orage, ce qui a aussi fait de vous, on peut le dire, un soleil, Macha Merrill.
Merci Hélène. Réaction?
Oui, alors je suis projetée vers l'avenir, parce que je pense que le passé, c'est un peu morne, c'est un peu ennuyeux, c'est un peu figé. Tandis que la curiosité de l'avenir fait qu'on est en mouvement. Et je pense que chaque événement qui arrive est une sorte de promesse. Et je crois que ça finit pas. Et je voudrais dire un petit mot sur la vieillesse.
Dites.
Je vais avoir 80 ans cette année. Eh bien, c'est génial. C'est formidable. On n'est pas dans la célébration de sa vie. On est au contraire dans la somme de sa vie. Et on est en train de pouvoir librement se servir de tout ce qu'on a accumulé. Et ce livre, il est un peu ça. C'est pas tellement un livre. C'est une réponse à tous les gens qui me disent « Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie ?» Et surtout une réponse à Michel, parce qu'il attendait le meilleur de moi.
Quel joli message. Référence à Vania Vassia et la fille de Vassia, le dernier roman de Macha Merrill. Et à propos de littérature, précision sur ce que je disais avec Nicolas Caro au sujet de Pascal Rose du prix Goncourt. La polémique, quand elle l'a eu, c'est parce que le monde littéraire estimait que le prix revenait à Édouard Manet. Et pour Michel Houellebecq, c'est Paul Constant qui l'avait eu cette année-là, ce qui n'avait pas plu au milieu littéraire. Germano-Pratin. Culture Média, c'est terminé. Nous, on se retrouve lundi à 9h avec la journaliste Mélissa Bell, journaliste américaine. On va fêter avec elle les 40 ans de la chaîne CNN et puis le chanteur Charlie Couture qui est revenu du coronavirus avec des chansons et une énergie intacte. Salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Mandel,
à lundi. Bon week-end.
Bon week-end. Dans un instant, Andrew Manoff arrive sur Europe 1 avec sa bande et ses invités aujourd'hui. Jean-Michel Apathy et Elisa du groupe L.I.J. sur Europe 1.